Café à l'OBN, jour numéro 5 de l'Omnium, Banque nationale. Hugues Léger, bonjour. Paul Rivard, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
Ok, oui, c'est pour toi, Nicolas, et c'est parti!
Comme les scouts, toujours prêts. Oh, pardon, c'est ça.
Salut, salut les gars, très content de vous retrouver pour cette cinquième journée du tableau principal de l'Omnium Banque Nationale. Je commence avec Paul Rivard qui est là en remplacement de Nico. Paul, ça va comment?
Ça va toujours extrêmement bien. Je suis couché un petit peu tard hier parce que je faisais le bilan de la journée et Dieu sait que la seule soirée aurait pu remplir le blog au complet. Mais bon, on en a tous parlé, on y a tous réfléchi et c'était une soirée fertile en rebondissements où on a encore fait, c'est pas vrai, pas encore, pas encore. Et je vois Hugues hocher la tête et je pense que maintenant, on commence à avoir peur à chaque fois qu'elle va courir une balle. Est-ce que je me trompe?
Oui. Ben. Moi, j'ai aimé la réaction de Bianca en conférence de presse parce que tout le monde, on s'est dit « pas encore, c'est pas vrai ». Et là, elle commence à se révolter elle aussi. Tu sais, au point où on se dit, moi, on se dit en match, est-ce qu'il y a un volet tactique, un volet mental, est-ce qu'il y a un truc de psychosomatique avec ses blessures récurrentes? Mais là aussi, la voir si frustrée, dégoûtée en conférence de presse sur cette situation-là, elle était vraiment, vraiment déçue. Là. Moi, je trouve ça plutôt sain et ça va provoquer des réactions pour elle pour le futur. On ne sait pas ce que ça va donner, mais je pense qu'il y a des choses qui vont être abordées maintenant parce qu'elle aussi, elle n'en peut plus.
En tout cas, vous allez le voir, on en a des clips là, on va les jouer un petit peu plus tard quand on va y revenir là, mais non, je pense qu'elle est écœurée pour utiliser un terme clair. Hugues, comment ça va ce matin?
Super bien. Écoute, quelle belle semaine. Moi, cette chaleur-là, évidemment, je suis pas sur le terrain à m'échiner pendant 2h30 à frapper des balles. Là. Donc, beaucoup de respect pour les joueuses et les joueurs à Toronto qui souffrent et qui démontrent à quel point ils sont des super athlètes. Mais c'est une très belle semaine au niveau du temps et au niveau du tennis. Donc, je suis très bonne humeur.
As-tu fait comme Paul et moi et resté debout jusqu'à 1h40 du matin pour voir Jessica Pegula et Danielle Collins? Paul, j'ai une pensée pour toi. En toute franchise, tu devais, je sais pas, peut-être être content de pas décrire ce match-là qui terminait plus de plus finir avec Jessica Pegula qui a échappé toutes les balles, plein de balles de match avant de finalement conclure. Là. Fait que as-tu écouté le match jusqu'à la fin, Hugues?
Non, j'avoue que j'ai décroché avant hier soir. Hein.
Ça a fini tard. Toi, Paul, t'avais pas le choix, fallait que tu fasses un résumé.
Non, écoute, je voulais pas. Je veux pas avoir l'impression de m'être couché très tard. Moi, je travaillais principalement sur... Parce que à Tennis Canada, pour le blog, on donne la préséance aux Canadiens. Et avec raison. Deuxièmement, il faut comprendre qu'il y a un processus de révision des textes. Il y a un processus de traduction des textes. Et à un moment donné, si j'attends la fin de tous les matchs... Alors non, je n'ai pas suivi cette rencontre. Dès que la conférence de presse de Bianca a été conclue, évidemment, il était rendu quoi?
Minuit.
Ouais. Bon... Le temps de tout faire ça et que ça soit envoyé. Et cependant, ça me rappelle des souvenirs, car je l'ai fait pendant 4 ans, entre 2016 et 2019 inclusivement. Je n'avais cependant, et j'ai tout mon respect pour nos collègues là-bas, ou ex-collègues si vous voulez, nos amis, quoi, Marie-Ève Pelletier, Félix Séguin, et peut-être c'est les collègues de Sportsnet, c'est épouvantable parce que, deuxièmement, tu le fais pour le travail, tu le fais parce que, à quelque part, ça peut être rediffusé le matin avant le début du programme. Ça serait de la bonne télévision. Mais d'un autre côté, ça n'a pas de bon sens, se coucher aussi tard et travailler aussi tard alors qu'il n'y a plus personne probablement à l'écoute. Mais bon, non, ce sont les aléas du métier.
Félicitations à Félix et Marie-Ève qui, honnêtement, moi, je l'ai écouté jusqu'au bout. Je l'ai écouté en français. Et puis, l'énergie de Félix et Marie-Ève est encore très bonne, même à 1h30 du matin. Alors, félicitations. Ils sont allés à l'école Paul Rivard. Voilà, c'est ça qu'on
dit. Bon, peu importe. Notre chère Marie-Ève qui, je pense, s'améliore depuis le jour 1 et continue de le faire. Et quand je dis qu'elle s'améliore, c'est pas qu'elle part de loin. Là. Elle est vraiment très bonne. Je retiens une phrase hier, j'ai souri tellement elle a été vive là-dessus. C'est qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est difficile pour Bianca. Elle a mal, elle court des balles, elle réussit des balles, mais elle a mal, elle grimace. Et là, Félix dit avec raison, je pense qu'elle focus beaucoup, excusez-moi le terme, c'est peut-être pas ça qu'a dit Félix, mais elle focus beaucoup sur son orteil. Et là, Marie-Ève dit, moi, je pense que c'est Hans Jaber qui focus sur l'orteil de Bianca, car c'est cruel, mais Jaber a fait exactement ce qu'il fallait. Elle lui a fait faire l'essuie-glace, comme dit mon ami Vincent Destouches, et elle a réussi à la fatiguer, à lui faire peur, à lui faire craindre d'avoir mal. Et ultimement, je te conclue là-dessus, même si on n'était pas lancé là-dessus, Hugues, tu seras d'accord avec moi, on a vu souvent des tentatives de retour canon de la part de Bianca, mais c'est qu'elle voulait un échange à un coup. Elle ne voulait pas d'autres échanges.
Tout à fait. Elle voulait raccourcir les points autant que possible. Elle voulait finir en 2-7. Là, c'était sa seule chance peut-être. Et elle avait la mauvaise cliente de l'autre côté parce que la variété de l'arsenal de Hans Jaber, j'en parlais avant le match d'hier d'ailleurs, c'est une des joueuses qui a le plus de trucs dans son sac. C'est le terme que j'employais hier. Donc, c'était compliqué. Elle le fait souffrir, là, c'était clair.
Ben, puisqu'on y est, messieurs, allons voir les états d'âme de Bianca Andreescu. J'ai sorti plusieurs clips de sa conférence de presse parce que je pense qu'elle était... j'étais écœuré, mais c'était significatif ce qui s'est dit dans cette conférence de presse-là.
I'm sick and tired of retiring. Yeah, for sure I could have, but I did not want to tonight. It's super bruised. It hurt on a lot of shots. I try not to show it, but... She also took advantage of that, and she was just playing lights out in the third set. Didn't give me anything to really feed off of. And yeah, I hope my toe's going to be good for my next tournaments. Well, she's the type of player that likes to slice, drop shot, all that. And, you know, some games she'd be super on, and then other games she'd miss like four in a row. And so there wasn't a lot of rallies or... rhythm, like for example in my first round match there were more rallies and, you know, consistency, and yeah, that was basically the whole rhythm thing. These are things we have to deal with, and so I try to deal with it in the best way that I can. I don't like it, even if I'm down, if I'm up, I don't like the disruptive rhythm at all. And for me, I think the main thing was, you know, to stay active during that break, and I think it helped me a little bit. But then, like, the whole toe situation happened, and it's just super disappointing because, like, there's always something, and I don't understand. Well, it kind of sucks that I have to do these press conferences after a loss like that, because I'm just in the worst friggin' mood ever, and I honestly don't want to talk to anybody or answer these questions, no offense to anyone, and like, I'm trying to stay positive here right now. I know tomorrow's another day, I'll be fine, hopefully, but right now, like, I'm so pissed, I could cry a river. Maybe a little bit. I know my fans were there, but I think Onsis's fans were a bit more there than mine. But I mean, that's nothing I can control, you know? And yeah, I hope that's gonna, you know, help her win the tournament now.
All right. Wow. Thank you, everyone. Thank you for your time.
Alors, messieurs, ouais, Paul, tu voulais dire quelque chose?
Écoutez, il y a plein de choses là-dedans. On va laisser faire les réactions normales, typiques, clichés, et c'est pas du tout négatif ce que je dis. I'm so pissed. I could cry a river. I'd be anywhere besides being with you guys. No offense to anyone. Écoutez, vous n'avez pas l'impression d'entendre un peu Naomi Osaka qui, évidemment, voudrait se défaire de cette obligation, qui est l'obligation dans tous les sports. Moi, en passant, là, je suis pas en train de soit défendre Naomi Osaka ou de prendre son parti ou de la critiquer. on a tous suivi quelque chose qui est en train d'être important au niveau de la situation actuelle du sport et des athlètes professionnels. Ça reste leur devoir, ça fait partie du contrat non écrit. Il faut s'adresser aux journalistes, mais vous comprenez, il est minuit, elle a mal, elle vient d'avoir la 723e blessure en 2 ans, et là, en plus, il faut qu'elle aille s'expliquer alors que tout est tellement évident, mais c'est la dure loi du sport. Moi, ça vient de me chercher, cela, là, puis pourtant, elle l'a fait, et heureusement, j'espère que tout journaliste va comprendre qu'on est presque mal d'être obligé de faire notre travail pour aller chercher les fameuses quotes, comme on dit en langage journalistique. C'est spécial.
Je vais répondre à ce que tu vas dire, mais Hugues, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, ben, je vais rebondir sur ce que Pierre vient de dire, Pierre-Paul, parce que vous savez que j'ai été très critique sur Osaka. Ça fait partie de la responsabilité des joueuses du plus haut niveau pour la promotion du tennis, pour la WTA, pour le lien avec les fans. Encore une fois, il y a des aménagements qui sont nécessaires et je pense que tout le monde doit regarder comment améliorer cette situation-là pour pas mettre une pression indue sur les joueuses et joueuses en conférence de presse. Mais je suis tellement touché par la conférence de presse d'hier de Bianca. Elle se présente à minuit ou presque, effectivement. Et on parlait hier des conférences de presse de Félix et Denis. On se dit, ils ont montré beaucoup de maturité et tout ça. Moi, j'aurais aimé voir plus de révolte un peu, plus de colère après une défaite inattendue et qui devrait pas arriver au premier tour ou au premier match, en tout cas, du tournoi. J'ai adoré la candeur, la réelle candeur et les points très justes de Bianca. Et je pense effectivement que là, il y a une révolte qui monte en elle là, sur comment elle va aborder cette situation-là des blessures, mais ça me fait que l'apprécier encore plus ce que j'ai vu d'elle hier soir.
Bravo!
Et moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, Guy. Je suis pas convaincu que... Quand elle disait j'ai envie de cry a river puis j'ai pas envie d'être avec vous pour ce genre de conférence de presse là, je pense pas que c'était comme contre les médias. Moi, je pense qu'elle est juste écœurée des foutues blessures. Puis comme elle disait dans sa conférence de presse, il y a toujours quelque chose. C'est un peu comme si la gang s'acharnait sur elle. Et je pense que c'est beaucoup plus de ça qu'elle est écœurée. Puis après ça, venir parler en médias, tu vas dire quoi? Ben oui, je suis encore blessé. Tu sais, aussi intéressant, au début de la conférence de presse, elle dit, tu sais, j'aurais pu abandonner. Je pense que ce qu'elle sous-entend, c'est que la douleur est assez intense pour qu'elle abandonne, mais il n'était pas question que j'abandonne. Tu sais, puis ça, on doit respecter ça. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, Hugues, que je pense qu'on a vu la vraie Bianca. Tu sais, on n'a pas toujours, people, tu as assez d'expérience, là. On n'a pas toujours la vraie pensée des athlètes quand on leur met un micro en dessous du nez. Là. Si tu veux vraiment savoir ce qu'un athlète y pense, tu y parles sans micro. C'est aussi simple que ça. Là. Mais hier, je pense que si tu y avais parlé sans micro et avec micro, ça aurait été la même chose.
Ah, c'est beau. Et dans un sens, là, les « I'm pissed off, I could cry a river, shit happens ». Ça s'appelle « pas jouer la cassette ». Et c'est pas qu'on veut répéter des mots qui sont pas agréables, mais c'est la vie, ils sont humains et puis ils le sont devant nous dans des situations-là. Chose certaine, oui, vas-y, Alexandre.
Non, mais vas-y, continue ton point, excuse.
Ben, je voulais juste dire, chose certaine, comme le disait Hugues un peu plus tôt, il faut qu'il se passe quelque chose ou il faut qu'il arrête de se passer quelque chose. C'est pourtant une fille qui, en théorie, est en forme. Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il faut ajouter? Parce que là, psychologiquement, c'est un peu... Rappelez-vous l'épisode de Félix Auger-Aliassime au US Open contre Denis Shapovalov, hein, le problème d'arythmie cardiaque. À chaque fois que son cœur pouvait s'emballer, on se disait, est-ce qu'il va être complètement déconcentré car t'as peur pour ta vie? Là, dans un registre un peu moins dramatique, est-ce qu'à un moment donné, elle est en forme, elle s'entraîne, tout va bien, elle dit « je suis 100%, je commence un tournoi, premier match, ça va, oups, petite chose ». Il y a quelque chose que, je sais pas si, moi j'alternais entre Sportsnet et TVA Sport, je me promenais beaucoup hier, et malheureusement, le descripteur de Sportsnet a peut-être raté une séquence que son réalisateur lui a envoyée, c'était dans la première manche, Hugues et Alex, vous vous rappellerez peut-être, et elle était allée chercher une balle et on avait remontré la séquence qui est la caméra tout juste sur le côté du filet où elle semblait très sautée un peu. Puis il y a rien qui a été souligné à la télé en anglais. Je ne sais pas si Félix et Marie-Ève l'ont fait probablement, mais c'était la première indication et on était en première manche. En passant, c'était deux orteils différentes hein, pour qu'on ne soit pas mélangés. Là, il y a eu le pied droit d'abord et c'est l'orteil du pied gauche qui ensuite l'a laissé tomber. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que toutes les parties de son corps, elle est déjà sortie sur un fauteuil roulant, rappelez-vous, il y a 3 ans ou 4 ans, en fait, cas.
Oui.
Et là, ben, je vous fais grâce de tout le reste, autant l'épaule aux internationaux de France quand on était dans sa fameuse année 2019. Ensuite, il y a eu la cheville, il y a eu « ça fait peur, c'est triste, ça, à 21 ans, c'est wow ».
Non, t'as raison. Le terme, c'est « ça fait peur ». C'est exactement ça. Puis tu sais, toi puis moi, Paul, on la suit depuis qu'elle a 14, 15 ans chez les juniors.
Oui. Oui.
Et déjà, à l'époque, c'était un thème récurrent. Et ça fait un an et demi qu'on fait le podcast et ça fait un an et demi qu'on parle de blessures dans le cas de Bianca Andreescu chez les pros. Hugues, est-ce que le nouvel entraîneur peut être un facteur, tu penses, dans tout ça?
J'en suis convaincu. Je pense que l'association avec Sven Grunewald est un excellent choix de la part de Bianca. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience en grand chelem au plus haut niveau. C'est lui qui a vraiment tenu Maria Sharapova au plus haut niveau pendant plusieurs années. Donc, je pense que c'est un excellent choix. Et je pense qu'il entreprend un chantier avec Bianca. Là. C'est le début de la relation. On a vu durant le match, elle a essayé d'aller lui parler souvent. L'arbitre est même intervenu parce que le coaching, quand le match n'est pas arrêté, ne pouvait pas avoir lieu en temps de pandémie. Donc, le clan Jabeur s'est plaint de ça. L'arbitre est allé intervenir. Donc, je pense que Sven Grunewald va travailler sur elle et je vais quand même parler de l'aspect physique. Je pense qu'il doit travailler un peu l'aspect physique de Bianca. Elle est puissante, elle est en forme, elle est rapide, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire d'un point de vue physique pour être plus affûtée, je vais le dire comme ça, et peut-être enlever un peu de pression sur ses articulations, sur le bas du corps, les chevilles, les pieds.
Et avez-vous noté, messieurs, les athlètes, de façon générale, sont super concentrés dans leur match. Il y en a qui disent maintenant, j'entends pas la foule, j'entends pas ce qui se passe, je suis simplement concentré sur mon jeu. Mais Bianca a remarqué que les partisans de 11 Jabeur étaient presque plus bruyants que la foule canadienne.
Oui.
C'est intéressant qu'elle a noté ça, Paul.
Ben, en fait, c'est que il y a Jean-Philippe Bertrand qui était sur les lignes de côté et qui, pendant le match, a souligné, écoutez, ils sont quelques centaines, mais je vais vous avouer que sur les 5000 personnes, on les entend pas mal. Et à la télé, c'était plus ou moins évident parce que souvent, bon, on fait des séquences en isolé sur des groupes de Tunisiens ou d'Arabes, peu importe, une communauté qui était très vocale, effectivement. On avait une ambiance de Fed Cup, Billie Jean King Cup, Coupe Davis, appelez-la comme vous voulez. Et j'adorais ça dans un sens. L'autre avait à se battre pour sa condition physique. Hans Jabeur, qui, elle, était, évidemment, elle est en feu depuis le début de l'année, là, parce qu'elle est vraiment en train de monter. C'est sa meilleure année, c'est clair. Et une fille qui a à peu près le même sac à outils que Ash Barty puis Bianca Andreescu, que l'on vend tant. C'était intéressant et sympathique. Et l'entrevue d'après-match, sans vouloir sauter les étapes, Hans Jabeur a dit « J'aime les partisans tunisiens, j'aime les partisans canadiens, j'espère maintenant qu'ils vont me suivre. » Puis Bianca, qui est au filet, lui a dit « Écoute, maintenant, t'es mieux d'aller gagner ce tournoi-là. »
C'est ce qu'elle disait dans la conférence de presse. D'ailleurs, tu parlais de sa conférence de presse et j'en ai une petite clip parce qu'elle parle français, Hans Jabeur. Je propose qu'on aille l'écouter rapidement.
C'était vraiment incroyable, le public est fabuleux, le Tunisien et les Canadiens aussi, c'était vraiment super. Franchement, j'adore jouer sur ce genre de terrain, j'adore jouer quand il y a une ambiance comme ça. Je pense la dernière fois, c'était contre Alep à Dubaï. Et là, je suis en train de revivre d'autres choses et surtout que on jouait sans public à un certain moment. Donc vraiment, j'apprécie vraiment le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir et surtout les Tunisiens.
Elle parle même très bien français, ouf!
Oui, qu'est-ce que ça veut dire?
Non, je vais me retenir. J'allais dire, j'aimerais ça que quelques joueurs des Canadiens de Montréal prennent... bon, mais ça, c'est une autre histoire.
T'avais pas besoin de te retenir pour ça.
Écoutez,
Est-ce qu'elle va être une fan favorite d'ici la fin du tournoi, messieurs?
Oui, Oui, j'en suis convaincu. Un, il y a la diaspora tunisienne qui va continuer de la supporter. Ce type de personnalité-là plaît aux Montréalais. Elle a ce petit côté, bon, évidemment, méditerranéen, donc Afrique du Nord. Il y a une grosse communauté ici. On est très près de ces communautés-là à Montréal. Et je pense qu'il va avoir un attachement qui va se faire. C'est elle qui est la tombeuse de Bianca. Et je pense qu'elle a ce petit côté auquel les gens vont s'attacher jusqu'au bout. Je pense qu'elle va être un fan favorite, oui.
En fait, elle est peut-être une autre Bianca. Excusez-moi, là, mais elle a l'énergie. Ouais. Elle a la hargne. Elle a 18 coups différents qu'elle peut faire. Hier, là, c'était une clinique d'amorti. En passant, au pourcentage, elle s'est brûlée quelques fois, mais c'était une clinique d'amorti.
Et de l'homme. Ouais. Elle sort tous les coups.
Ouais. Ouais, alors oui, j'abonde dans le même sens.
Elle est très sympathique, hein. Il paraît qu'elle est très appréciée sur le circuit aussi, là. Donc, c'est une fille qui a une belle personnalité et qui plaît aux gens en général. Donc, je pense que Montréal est en train de la découvrir en ce moment.
C'est ce que j'allais dire et c'est quand même un exploit qu'une joueuse qui bat notre joueuse nationale, les fans puissent aller se ranger derrière elle, parce que d'habitude, ça deviendrait l'ennemi juré. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut faire ça à Montréal ou au Canada. Peut-être Simona Halep et peut-être 11 Jabeur, mais elle va rentrer dans une catégorie de joueuses qui est en tout cas assez exceptionnelle, parce que quand tu bats le joueur local, généralement, tu es l'ennemi juré. Harriet Dart, elle n'aurait pas eu ce traitement-là.
Non.
Une autre chose. Hugues, en passant, toi qui surveilles à peu près tout, j'ai pas eu le temps ce matin de voir Ange Jabeur rendu à 36-13 cette année. Je pense que c'est la deuxième meilleure fiche de toute la WTA. Premier titre pour une joueuse du Moyen-Orient ou du monde arabe depuis, incluant les Égyptiens et tout ça.
Ah, c'est la première. Je le confirme, c'est le premier titre, oui.
Et je pense qu'il y a juste Ismaël El Shafi d'une lointaine époque qui avait fait mieux au niveau du classement mondial et au niveau des titres à l'époque. Est-ce que tu peux me dire si de 22e mondial, ça va probablement la propulser dans le top 20 facilement lorsque elle est en train de faire à Montréal?
Là, je pense qu'elle va monter dans le top 20. Évidemment, on est sur un WTA 1000. Il y a beaucoup de points à la clé du tournoi. Et elle a des performances au-delà de sa victoire de son premier titre. Elle a quand même sorti Muguruza à Wimbledon dans un match épique. Elle a été malade sur le terrain, je le dis. Là, je sais qu'il est un petit peu tôt ce matin encore, mais elle a tout donné littéralement. C'est une fille qui m'impressionne. Vraiment, là, j'aime beaucoup ce genre de guerrière qui apporte toutes sortes de coups sur le terrain. Elle n'est pas du tout formatée comme les autres. Et vous savez que j'aime ce type de joueur-là. C'est pour ça que j'aime Medvedev à ce point-là du côté masculin en ce moment. Donc, Ange Jabeur va passer dans le top 20 et elle va continuer de progresser.
Ben Paul, pendant que tu posais la question et que Hugues répondait, j'ai fait la recherche. Oui. Là, pour l'instant, tu vois, elle serait classée 20e mondiale. S'il fallait qu'elle gagne le tournoi, là, j'y vais d'un calcul rapide, là, prenez pas ça au mot, là, mais elle se retrouverait autour de la 15-16e place mondiale. Là, Maria Sakkari ne gagnera plus de points. Ouais, ce serait autour de 15-16 dans ces eaux-là s'il fallait qu'elle gagne le tournoi. Elle est déjà assurée d'être top 20 mondial. Ouais, derrière, il n'y a plus vraiment de joueurs qui peuvent faire des points coco. Ouais. En tout cas, dans ces coins-là, entre 15 et 16, potentiellement, ça gagne le tournoi. Et là, pour l'instant, elle serait classée au top 20 si elle perdait au prochain tour. Alors,
c'est très prenable, il me semble. Je regarde les joueuses. Bon, Sabalenka est partie pour la gloire. Si elle continue comme ça, elle va passer au travers du tableau facilement.
C'est encore drôle, Paul. C'est encore drôle, Sabalenka, parce que s'il y a une joueuse qui peut rivaliser avec la puissance, c'est Azarenka. Elle l'a fait toute sa carrière contre Serena Williams. C'est alors, c'est ça, c'est. Je suis d'accord avec toi, elle est la favorite du tournoi, mais s'il y a une joueuse qui a rivalisé avec le prime, la force de Serena Williams, c'est Azarenka. Alors, j'y mettrais un petit bémol.
Bélarus du passé contre le Bélarus du présent.
Oui. Ah, c'est tellement bien dit. C'est tellement bien dit. C'est exactement ça. J'avais pas prévu en parler, là, mais s'il fallait que Coco Gauff gagne le tournoi, est-ce qu'on s'entend que ce serait le tableau le plus facile de l'histoire pour un Masters?
Écoutez, j'ai calculé ça. Hier, Coco Gauff a joué 1h23 ou 1h43 minutes en 3 tours. Donc, d'ailleurs, Hugues, on peut en parler très brièvement. Point positif, hyper reposé. Point négatif, elle n'a pas joué beaucoup de matchs. Alors, les autres vont arriver avec pas mal de matchs dans le corps.
Oui, oui, oui. On dit un walk in the park, hein, une balade au parc pour Coco Gauff, une balade au parc Jarry, on pourrait dire. Mais attention, moi je l'ai mis comme gagnante. Hein. J'ai mis Medvedev côté masculin et Gauff sur mon tableau du côté féminin parce que je pense du côté féminin, c'est complètement ouvert à chaque tournoi. Donc, qui sait si ça va pas l'avantager avec la chaleur aussi qui fait souffrir les joueuses en ce moment. Donc, le fait qu'elle soit fraîche, si elle s'entraîne bien, ça pourrait peut-être être un plus. On verra.
Moi, je pense qu'elle peut aller en demi-finale parce que Camila Giorgi, des performances comme hier contre Kvitova, désolé là, et je pense que Giorgi a 29 ans, elle est toute menue et elle m'a toujours surprise et en plus j'ai toujours trouvé qu'elle n'avait pas de façon. Je pense qu'elle a à peine regardé vers les estrades après avoir gagné son match. Je trouvais ça un petit peu quelconque. Alors je pense qu'elle va passer au travers et se rendre en demi-finale. Mais après, imaginez Coco Gauff contre Hans Jabeur si elle passe à travers Pegula. Ça sera intéressant, ça.
Ça va être bon, ça. Ah oui.
Très intéressant. Et puis, bon, Coco Gauff, elle a possiblement, comme tu le disais, Camila Giorgi, c'est pour les prétendantes au titre, c'est peut-être l'adversaire la plus simple pour,
tout à fait.
Pour toutes les autres qui sont prétendantes au titre. Messieurs, avant qu'on continue notre regard sur le tournoi, juste qu'on revienne rapidement sur Rebecca Marino. J'ai quelques clips, puis on peut parler de sa performance exceptionnelle dans ce tournoi-là.
Oui.
And she just came out firing from the first ball. Didn't give me much to work with, so like very, very impressive. And in the second set, I felt like I had slightly more control, and I hung in there a little bit. But yeah, so I'm a little disappointed with today, but overall, if I look at the grand scheme of the week, I think there's a lot of positives from this experience, and I'm really proud of myself. Yeah, well, to begin with, I wasn't sure if I was getting a main draw or a qualifying wild card. So any opportunity I was given in either scenario, I was quite happy with because this is a huge tournament. And then secondly, once I knew I had that main draw wild card, I wanted to use it to the maximum, like the maximum capability, the maximum opportunity. So, you know, it didn't matter who I was going to play. I just wanted to leave it all on the court and give it my best shot. And in my heart, I feel like I belong with these players. I belong at this level. And I feel like the results kind of demonstrated that, that self-belief that I had. So it just takes a little while sometimes to climb. So I'm glad I got to show everyone how I played.
Elle a l'air bien. On a parlé beaucoup de santé mentale, là, mais je crois sincèrement qu'elle est de retour. Là, je parle même pas de tennis, là, à aimer son sport pour le sport qu'il est. Juste la façon dont elle parle.
Je pense qu'elle est de retour depuis un petit bout de temps, mais d'un autre côté, quand on ne fait que des 25 000, des 50 000, des 80 000, qu'on fait à peine quelques qualifications, bon, ça démontre qu'au niveau de tennis, elle n'est pas tout à fait de retour, même si c'est exceptionnel ce qu'elle a fait. Mais je pense que ça fait déjà un bon bout de temps parce que en faisant un retour après sa pause pour des raisons de bien-être mental, après avoir retrouvé son poids, car c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel, je pense que déjà qu'elle dure d'un an, deux ans, trois ans après ce retour, c'était excellent, c'était un très bon signe. Mais maintenant, elle vient d'avoir l'occasion en battant deux filles du top 40, d'ailleurs une 25 et une 31. Comme elle l'a dit, je sais maintenant que je peux jouer avec ces filles-là. Là, je viens de regarder et puis elle est maintenant 177e au prochain classement probablement. Elle a gagné 43 places et encore quelques bonnes prestations aux internationaux des États-Unis car elle y fera probablement les qualifications et elle dit si je peux faire une, deux rondes, trois rondes, même accéder au tableau principal. Mais là, c'est clair qu'elle fait le plein de points. Puis là, elle s'approche du top 100. Mais est-ce que, Hugues, là, maintenant, bon, ben, c'est la cruauté de l'âge, du corps de ses athlètes. Je ne pense pas qu'on la reverra. Ça serait exceptionnel si à 32, 33, 34 ans, elle revenait dans le top 50 ou dans le top 25.
Ouais.
J'en doute un petit peu, mais j'aimerais ça.
Je le pense pas non plus, Paul, mais bon, ce que j'aime, c'est qu'elle va finir sa carrière sur des bonnes notes parce qu'il en reste beaucoup à venir. Elle sera en paix au niveau personnel aussi parce qu'elle sera allée au bout de son tennis. C'est exceptionnel d'être revenue après une si longue période et à ce niveau-là. Un une ronde des 16 dans un WTA 1000, ça fait un beau chèque aussi. Donc, je suis content pour elle au niveau financier. C'est vraiment intéressant là, qu'elle aille chercher ce type de bourse aussi. Donc, mais il peut lui rester encore 2-3 ans là, à compétitionner à un bon niveau si elle a envie. Mais il va falloir qu'elle ait envie parce qu'elle va devoir faire des challengers, elle va devoir faire des qualifs. Elle ne sera pas nécessairement invitée dans plusieurs tournois sur des wildcards. Elle n'est pas rendue là encore. Donc, il y a quand même du travail à faire encore. Mais elle a un bon 2-3 ans devant elle si elle a envie de jouer, c'est clair.
Messieurs, je pense qu'on doit être satisfait du tournoi de Andreescu. Avant qu'on regarde les matchs à surveiller ce soir, j'ai 2-3 petites choses que je veux qu'on fasse ensemble avant. D'abord, on a eu la chance de recevoir les gens de Matchpoint Canada avec nous, Mike McIntyre et Ben Lewis qui couvrent le tournoi de Toronto. C'est nos grands frères au podcast sur la ligne parce qu'ils sont le podcast anglophone de Tennis Canada. On les a rencontrés aujourd'hui pour faire un petit bilan demi-tournoi. Voici ce que ça a donné. Alors, Hugues, je suis très content ce matin parce qu'on reçoit nos grands frères, ceux qui ont pavé la voie avant nous, les gens de Matchpoint Canada. Mike McIntyre qui est venu à quelques reprises. Bonjour, bienvenue.
Et salut les gars.
Ben Lewis, it's your first time on the Sur la Ligne podcast. Welcome.
Yeah, thank you guys for having me. Appreciate it.
Je vais commencer avec les gars pour vous dire un gros bravo pour votre couverture cette semaine. Selon nos chiffres, vous êtes deuxième au Canada pour l'essentiel de la semaine. Ben, congratulations. Our numbers tell us that you guys are the second tennis podcast in Canada this week. So great job, on that, guys. I know you cover a lot of the tournament. You put a lot of content out there, and really, congratulations for the work this week.
Yeah, we really appreciate it. Well, congrats! I see you guys are number three, so they're listening to you as well, which is terrific.
Thank you, thank you. Alors, Ben qui dit, je l'ai félicité pour les bons chiffres qu'ils ont cette semaine pour leur podcast. Il dit, ben j'ai vu que vous faites aussi des bons chiffres, alors continuez votre bon travail de votre côté. Parlons du tournoi, messieurs. Mike, je vais commencer avec toi. Ça ressemble à quoi le tennis en temps de COVID à Toronto cette semaine?
Bien, c'est différent, bien sûr. Il y a une limite sur les spectateurs, même qu'à Montréal. Sur le court central, mais quand même, je trouve qu'il me semble que c'est presque à capacité en termes d'enthousiasme par les spectateurs qui sont très contents d'avoir le tennis à retour ici à Toronto. Moi, je couvre ici à la maison, mais j'ai amené mon petit-fils l'autre soirée pour voir Denis Shapovalov et c'était vraiment, vraiment quelque chose de spécial pour moi de voir un match de sport en direct encore. Et avec un membre de ma famille, ça me donnait un sens de normal.
Ouais, non, ça c'est exact. Ça faisait du bien de revoir du sport en direct sous nos yeux, pas loin. Ben, how is it been going covering the tournament from home? You guys have been covering a lot of this tournament a lot in the last couple of years on site. But how is it to cover it from home?
I mean, it is an adjustment. I think we did prefer covering it on site the past previous years, just having that aura and the environment, getting obviously to walk around the grounds is a unique experience, both in Toronto and Montreal, if you get to be at the tournament and navigate different courts. But we've, I think, been grateful to have such great player access, even working from home. Getting to speak to so many terrific players this week has been a blessing, and just being able to join all these press conferences and still feel like we're getting a lot of great tennis content and following the event so closely, even if we aren't on site. And I will give a lot of credit to Toronto for the matches on Stadium Court this week, on Centre Court at Aviva Center. I think the crowds have been terrific, and the atmosphere has been great. I think people have been so excited to get live tennis back. I'm not sure what it's been like in Montreal. I sense that as well, but it's honestly been terrific here.
Guys, what's the capacity of spectators that are welcome in Toronto? Because it seems like there's more people in Toronto than Montreal. We have 5,000 limit in Montreal right now.
Yeah, we have the same.
Okay. It looks bigger on TV, so the atmosphere is pretty good, actually.
Mm-hmm. Alors, ce que j'ai demandé à Ben, j'ai dit, bon, toi et Mike, vous avez couvert le tournoi pendant plusieurs années, vous l'avez fait aussi sur place. Bon, cette année, avec les mesures sanitaires, c'est un peu plus compliqué, ils doivent le couvrir de la maison. Alors, j'aurais demandé comment c'est. Il dit, ben, c'est sûr qu'on aime mieux le couvrir sur le site sur place, en fait. Ben, il dit quand même, je dois donner un bon... je dois donner un crédit à Tennis Canada qui nous aide à avoir les conférences de presse et on peut avoir accès quand même aux joueurs de façon virtuelle. Alors, on le fait de cette façon-là. C'est pas la façon idéale. Puis il dit, en termes d'ambiance, dans le stade, ben, écoutez, c'est quand même pas si mal. On peut avoir 5000 personnes et l'ambiance était quand même bonne, dans le stade. Let's talk about, Felix and Chapo, guys. Mike, t'as vu ça comment ces deux défaites-là au premier tour de Chapeau et de Félix?
Ben, ce n'était pas prévu comme ça, bien sûr, que tous les deux ont perdu leur premier match ici à Toronto. Moi, j'ai écouté votre émission de prévu et je pense que c'était Nico qui a dit qu'il croyait que c'était possible pour tous les deux d'avoir un tournoi jusqu'à la fin de semaine ici, en demi-finale, ouais. Peut-être. Et moi, j'étais d'accord avec ça aussi parce qu'il n'y a pas de Federer, il n'y a pas de Djokovic. Même Nadal n'était pas capable d'être sur le terrain. Alors, c'était une vraie chance pour tous les jeunes joueurs, incluant Dennis et Félix. Et ni l'un ni l'autre étaient capables de même amener un esprit compétitif durant leur premier match. Right. Dennis qui a perdu en deux contre Francis Tiafoe. Le vent était vraiment un problème pour lui le soir qu'on était ici, malheureusement. Et pour Félix, trop d'erreurs contre Dusan Lajovic. Et encore une fois, deux matchs que, moi, je pense, à ce point dans leur carrière, ils devraient trouver une façon de gagner.
Oui.
On y reviendra. Là. Je suis d'accord en partie. Ben, you've been in pretty much all the press conference I've been to in Toronto. I don't know how you do it. You're there all the time. Mm-hmm. What was your feeling about Felix in the presser? He didn't look that down, but what was your feeling about it?
Yeah, I would agree with you. I thought he was going to look a bit more disappointed because... obviously, you know, I think it would have mattered maybe even more if he had been playing in Montreal, where obviously that's officially the hometown tournament. But he kept talking about accepting the loss, accepting the defeat and moving on. And I sensed from him, he just feels like he's been struggling to gather momentum. He played so well at Wimbledon. He made the quarterfinals. We thought that was kind of the turning point for the season for him. An amazing result there. And then since then, the North American hardcourt swing, Washington, and now Toronto, just one win and two losses. So I'm sure he's frustrated. I'm sure he's eager to get to the next tournament, which will be Cincinnati, and try and right the ship, try and get things back on track before the US Open.
Ce que j'ai demandé à Ben, j'ai dit, Ben, d'abord et avant tout, je ne sais pas comment tu fais pour être dans toutes les conférences de presse en même temps, parce que, bon, chaque fois que je suis dans une conférence, que je couvre une conférence, il est là, ça c'est sûr, et il en a couvert beaucoup, et j'ai dit, c'est quoi ton feeling sur Félix Auger-Aliassime? Il n'avait pas l'air si détruit après sa victoire. Il dit, non, j'ai à peu près le même sentiment après sa défaite. Il dit, non, j'ai à peu près le même sentiment que toi. Il dit, bon, évidemment, c'est décevant pour Félix. Il dit, c'est un peu à l'image de sa saison où il a manqué de constance. Il a très bien fait à Wimbledon, puis après ça, ben, c'est plusieurs défaites assez rapidement dans les tournois. Alors, c'est la constance. And Chapo, guys. First of all, let's start with Ben. Did you like his look? The all-Canadian red look?
I love the look. I love the look on the court in terms of what he was wearing. I didn't like the look of his game, unfortunately. It was just, I think it was just a bad day, unfortunately. I know the wind was definitely, I think, affecting the way he played. The wind was really swirling that night. And Francis Tiafoe, the American who beat him, seemed to deal with it a lot better. And afterwards, Denis Shapovalov talked about a little rust, saying Tiafoe was a lot sharper. Tiafoe played in Washington. He also played in qualifying in Toronto, so played a lot more matches. And Denis just simply couldn't get it going, which is a disappointment for him because I had high hopes for him here in Toronto.
Alors, je demandais à Ben, on a parlé de Félix, ce que tu pensais de la performance de Shapovalov, mais d'abord et avant tout, qu'as-tu pensé de son look vestimentaire qui était d'un rouge canadien? Il dit, j'ai beaucoup aimé son look vestimentaire. J'ai